Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Ça a donné lieu à des engueulades, surtout quand on a décidé de couper les vannes. Parce qu'il y a eu décision de couper les vannes. Et oui, ça a donné pas mal d'engueulades, on s'est pas parlé. J'ai été la petite fille ingrate. Alors, je te laisse imaginer, hein, toute ma vie, j'ai donné un tiers de mon salaire quasiment par mois. Et on me traite d'ingrate, que je veux pas aider, etc. Je suis devenue française. Ça, c'est une insulte, hein, quand on me dit ça.
Décidément, cette histoire de Française, Français, issue de l'immigration qui envoie de l'argent au pays, ça m'intrigue. Parce que l'argent est tabou, c'est tout le suc de notre podcast, et que là, on est un peu dans un tabou dans le tabou. Donc, il y a déjà eu un épisode qui commençait à défricher ce sujet, mais là, grâce à Fatima, on avance vraiment dans l'exploration, et puis, je vous fais une confession. Quand je suis allée retrouver cette cadre du consulting dans le quartier de la Défense à Paris pour parler de son parcours depuis les Comores, ce pays tellement pauvre, je ne m'apprêtais pas à me fendre la poire ou à me marrer. Mais sa bonne humeur et son humour sont tellement contagieux qu'il s'est passé... pour le savoir, tenez, écoutez cet épisode. J'espère que vous kifferez autant que moi la bonne ambiance qui en émane. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Fatima. Fatima, tu as 32 ans. Et je vais commencer par te poser les questions qu'on pose souvent dans Thune. T'as grandi où, Fatima? T'es née où? Et ils faisaient quoi tes parents?
Alors, je suis née aux Comores, c'est des îles, dans l'océan Indien, près de Madagascar, île Maurice, La Réunion. Et je suis née dans la capitale, Moroni. Mon père était entrepreneur, il l'est toujours. Et ma mère, elle était femme au foyer. Et puis ensuite, quand les enfants ont grandi, elle a commencé à faire des petits business de vente d'habits, enfin voilà, de choses comme ça.
Les enfants, c'est beaucoup d'enfants?
On est trois. Donc j'ai une petite sœur et un petit frère.
Et vous parlez d'argent à la maison?
Oui, on n'en parlait pas vraiment, mais je pouvais voir en fait quand il y avait des problèmes et quand ça allait bien. Mon père était entrepreneur, donc quand
il avait. Entrepreneur de quoi?
Dans les télécommunications. Il était ingénieur de formation, il a monté sa boîte dans son domaine. Et quand il avait des marchés qui gagnaient pas mal d'argent, ça se sentait à la maison. On avait plus de cadeaux, on faisait plus de sorties, on allait au restaurant, etc. Et puis quand il n'y avait pas d'argent, en fait, on mangeait de la soupe et voilà.
Ah, ça pouvait très vite varier.
Ouais, exactement. Et en fait, moi, mes parents, ils sont d'une classe sociale initiale, très pauvre. Ils ont vécu dans la campagne, dans un village où ils sont nés. Ils sont partis à la capitale, mon père a fait ses études et puis ensuite il a voyagé un peu partout, en Afrique, en France, etc. Il s'est sorti de sa condition de pauvre pour être un peu dans la bourgeoisie là-bas, mais avec plein d'aléas de l'entrepreneur et ça se ressentait au quotidien, quoi. Mon père, c'était quelqu'un qui considérait que les études c'était super important. Et donc, dès qu'il a pu, il nous a mis à l'école française. On était une ancienne colonie française. On a déclaré notre indépendance en 1974. Et le système scolaire local, en fait, il est très, très pauvre et très bas. Et le meilleur qu'on peut offrir à son enfant, c'est l'école française. Avec les cours en français, avec un niveau qui est quand même beaucoup plus élevé que localement.
C'est un peu une école d'élite, quoi.
Exactement. Donc là-dedans, il y avait énormément d'expatriés, bien sûr, et puis les riches du pays, en fait, globalement. Alors nous, on n'était pas les riches, mais on pouvait y accéder grâce au travail de mon père, qui pouvait nous payer, je crois qu'à l'époque, c'était 3000 euros par an. C'est quand même une grande somme quand tu sais que le revenu mensuel d'un Comorien, c'est 100 euros par mois, quoi.
C'est monstrueux, en fait.
Ouais. Donc, je suis entrée à l'école française en sixième. J'étais un peu un ovni, parce que ils se connaissaient tous depuis la maternelle. Et puis, en troisième, en fait, on décide soit de partir dans une école, dans un lycée local, parce que l'école française s'est arrêtée en troisième, ou soit on avait l'opportunité de partir à l'étranger, et notamment en France, pour poursuivre un cursus français.
En troisième ? Ah, t'es petite !
Ouais, c'est ça.
Et là, il faut carrément quitter le pays.
Il faut quitter le pays. Et moi, j'étais très excitée, parce que moi, je regardais les séries, voilà, et je croyais que la France, c'était Beverly Hills. Et que voilà, j'allais être avec des copines, mes copains, avoir de l'argent de poche, sortir. Et donc j'ai dit à mes parents, ben je veux partir. J'avais de la chance parce que j'avais de la famille ici en France qui a accepté de m'accueillir pour le lycée. Et voilà, l'aventure a commencé en France.
Alors, tu t'es retrouvée où ?
À 14 ans, je me suis retrouvée à Narbonne, dans le sud de la France.
C'est pas Beverly Hills.
Eh ben non, c'est pas Beverly Hills. Mais toujours, tu vois, dans l'idée de me donner le maximum qu'ils pouvaient, ils m'ont inscrite dans une école privée, sous contrat avec l'État. Et donc, c'était une école catho, où il y avait plein d'enfants de bonne famille, et où, en fait, mes parents avaient l'impression de m'offrir le meilleur qu'ils pouvaient m'offrir avec eux, avec ce qu'ils avaient.
Les Comores, c'est musulman, non ?
Ouais, à 99%, à peu près.
Donc, gros changement, que des Blancs,
oui.
En province,
oui.
Et dans un lycée catho.
Exactement. Et en plus de ça, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'étais noire. Parce qu'en fait, les enfants me disaient, mais ta couleur, elle est noire. Et en fait, je savais que j'étais pas blanche, hein, mais j'ai jamais été confrontée, en fait, à ça. Et c'est vrai que j'ai vraiment cette anecdote, tu vois, on était au lycée et j'ai un camarade qui m'a dit ça. Peut-être c'était une insulte, en fait, mais moi, j'ai découvert que j'étais noire à 14 ans en seconde.
Bon, alors, t'es quand même tenue de faire des très bonnes études, puisqu'il y a eu beaucoup de sacrifices.
Oui, tout à fait. Alors, j'étais déjà très bonne à l'école, j'avais déjà sauté une classe quand j'étais en primaire. Je ramenais toujours des meilleures notes. Et donc, dans la continuité, en fait, j'ai toujours beaucoup travaillé.
Comment ça se passait, la vie quotidienne, au niveau, justement, financier, en quelque sorte, même si t'étais petite.
Ouais.
T'étais logée dans cette branche de la famille.
Oui.
T'avais de l'argent de poche, t'avais des luxes, où tu pouvais rien demander, où tu devais filer droit et te contenter du minimum, c'était...
Alors, j'avais de l'argent quand c'était les anniversaires, voilà, on me donnait un billet, 50 euros par-ci ou par-là. On m'avait donné accès à une carte, mais je ne pouvais retirer là-dedans qu'en cas d'urgence. Donc, autant te dire que je ne l'ai quasiment jamais utilisé. Et puis, quand j'avais vraiment besoin, tu sais, il y avait un anniversaire d'une copine, aller manger au McDo, eh bien, je demandais qu'on me donne de l'argent. Mais c'est vrai que j'essayais vraiment de filer droit. Et donc, quand ce n'était pas nécessaire, je ne demandais pas. Et puis, j'économisais tout ce qu'on me donnait, en fait, pour me permettre voilà, de m'acheter des boucles d'oreilles, un peu tendance, quand toutes les copines avaient la boucle d'oreille. Ou, je ne sais pas, une paire de chaussures, quand y en avait une qui me plaisait. Mais j'avais pas accès à de l'argent au quotidien et puis j'osais pas trop demander non plus.
C'était qui les gens qui t'hébergeaient ?
C'était ma famille, c'était mon oncle, le frère de ma mère. Donc,
c'est des gens aisés ?
Non, du tout. Lui, il était cuisinier à l'époque. Donc il travaillait en restauration pendant les saisons. Et puis le reste du temps, quand il travaillait pas, il était au chômage. Donc c'était pas... Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais en fait, ils étaient logés dans l'appartement du restaurateur, gratuitement. Et puis, sa femme, elle faisait des ménages. Donc, voilà, ils gagnaient pas très bien leur vie, mais ils s'en sortaient très bien quand même.
Tu sais si tes parents leur donnaient de l'argent pour le fait qu'ils t'hébergent et qu'ils t'accueillent ?
Alors non, ils leur donnaient pas de l'argent. Il faut savoir que nous, aux Comores, le fait d'accueillir son neveu, sa nièce, quelqu'un de sa famille, que ce soit en France ou là-bas d'ailleurs, c'est très culturellement répandu. C'est pas une exception. Enfin, je suis là-bas la première personne qui est venue dans sa famille.
C'est presque une obligation, en fait.
C'est plus ou moins une obligation. Enfin, en tout cas, c'est une suite logique quand on a quelqu'un comme ça qui a un peu l'espoir de la famille parce qu'elle est intelligente. On sait qu'elle peut avoir un bel avenir et qu'on a la possibilité de l'envoyer en France étudier. Quasiment, ils n'ont pas eu le choix que de m'accueillir, en fait. Et du coup, c'est difficile de demander à des gens qui sont là-bas de l'argent. Mon oncle, il est ici. Enfin, il y a un peu cette idée quand on est en France, on gagne bien sa vie. C'est l'Eldorado. Alors, c'est pas Beverly Hills, mais C'est un autre cliché. Et donc, il a jamais demandé de l'argent en tant que tel à mes parents. Après, mes parents pouvaient payer mon billet de retour pour
quand
aller les voir.
Quand tu retournais là-bas,
ouais. C'est ça. Ouais. Mais je sais que, par exemple, il a assumé toute ma charge, enfin, toute ma vie, et mon école aussi.
Parce qu'après, tu as eu ton bac, évidemment, brillamment, j'imagine.
Oui.
Bravo.
Merci.
Et tu t'es destinée à quelles études ?
J'ai intégré une classe préparatoire à Aix-en-Provence. Donc là, j'ai dû quitter cette famille pour aller dans une autre famille, à Marseille. Et je faisais les allers-retours Marseille-Aix-en-Provence.
Encore un bout de ta famille qui...
Encore un bout de ma famille qui a accepté de m'accueillir pour les 2 ans de classe préparatoire.
Alors là, on rentre dans cette spécificité comorienne. Je crois qu'il y a un peu plus de 820 000 habitants aux Comores.
Oui.
Et selon les estimations, on pourrait être autour de 400 000 Comoriens qui sont à l'extérieur des Comores.
Exactement.
Et qui contribuent à la vie économique du pays, je crois à hauteur de 20 ou 25% du PIB. Enfin, c'est un pays, un archipel qui vit énormément sur la diaspora.
Exactement.
Et ouais. Là, toi, dès le début, tu t'es retrouvée en quelque sorte à rebondir.
Exactement. Et à bénéficier, en fait, de cette entraide qui est quasiment dans nos gènes, en fait.
Donc, c'est une entraide sans question.
Sans question, oui. Jusqu'au moment où il y a des embrouilles dans les familles, où on ne s'entend plus, etc. Mais effectivement, quand il a failli m'accueillir à Marseille pour ma classe préparatoire, ma tante, du coup, a accepté, sans poser de questions, parce qu'en plus, elle savait que j'étais assez brillante, quoi, que j'allais faire de bonnes études. Et puis, dans ma famille, il faut savoir que c'est la famille côté de ma mère, à chaque fois. Il n'y avait personne qui avait eu le bac, j'étais la première. Voilà. C'est moi qui ai fait les premières grandes études, du coup.
Donc, classe prépa et puis ensuite école.
Exactement, école de commerce, oui.
École de commerce.
En région parisienne.
L'idée, c'est quand même de faire du fric.
Oui, tout à fait.
On n'est pas là pour faire de la philosophie, quoi.
Non. Mais je le savais dès le départ, que de toute façon, j'allais me destiner vers un métier qui allait me rapporter de l'argent.
Quand tu dis tu le savais dès le départ, ça veut dire que tu... T'avais cette ambition-là très jeune.
Oui, tout à fait. Depuis longtemps que je m'en souvienne, je savais que j'allais faire des grandes carrières, que ce soit dans la politique ou dans l'entreprise.
Comme papa en mieux.
Oui, exactement. Et je pense que ça vient de mon éducation, parce que lui, il s'est sorti d'une extrême pauvreté, tu vois, où en fait, il n'avait pas à manger. Quand il était petit, il n'avait pas à manger. Il dormait dehors. Enfin, voilà, c'était très...
Il t'en a parlé de ça, ouais.
Il m'en a parlé, je pense, depuis que je suis née. On m'a rabâché l'histoire d'où je viens et que c'était un luxe que d'avoir un toit, à manger, pouvoir faire des études, partir à l'étranger. Donc je devais filer droit et j'ai filé droit.
Et t'as finalement eu l'impression que c'était luxueux la France ou pas, comparé à la vie que t'avais petite aux Comores ?
Ah, pas du tout. Hein. J'ai déchanté. en fait, j'ai découvert en venant en France toutes les histoires de classe sociale. J'ai vraiment vécu un autre monde. Parce que quand j'étais aux Comores, quand mes parents avaient de l'argent, ils aimaient bien sortir, nous emmener au restaurant. On accédait quand même à certains privilèges. Et en fait, ici, mon oncle ou ma tante, chez qui j'ai été, ils ne voyaient pas l'intérêt d'aller au restaurant quand t'avais un peu d'argent qui te restait. Fallait payer les factures, s'occuper des enfants, envoyer de l'argent aux Comores. Et donc, quand il te restait quelque chose, t'allais pas au restaurant, quoi. T'allais pas au cinéma, t'achetais pas des livres. En fait, j'avais plus accès à ces privilèges que j'avais là-bas.
T'avais une vie moins luxueuse ici que là-bas.
Complètement. Quand j'avais besoin d'un livre, par exemple, alors des livres à la con, Harry Potter, les Twilight, aux Comores, mais mon père, il me commandait ça dès que ça sortait, parce qu'il savait que c'était ma passion, que j'adorais lire. Ici, quand je demandais un livre, est-ce que c'est pour l'école ? Non, on peut pas te l'acheter.
Princesse Sarah, quoi. Tu te retrouves... T'es la pauvre petite fille aux allumettes.
Exactement.
T'en as souffert ?
Ah ouais, j'en ai souffert, oui. Et puis je mentais aussi, du coup, à mes amis, parce que, comme je t'ai dit, j'ai fait une école privée en France, j'ai fait une classe préparatoire, donc tu traînes avec des gens qui ont de l'argent.
Que des bourges.
Exactement. Donc moi, qu'est-ce que je disais, c'est que je viens de l'étranger, que mes parents sont entrepreneurs, et que du coup, c'est eux qui m'envoient ici. Et puis j'oubliais toute la partie où en fait, je vivais chez des gens qui étaient très pauvres et qui n'avaient pas les moyens de m'emmener au cinéma ou à des expos, etc. Ni les moyens financiers, ni intellectuels.
Ah, tu avais un petit complexe, quoi. Tu te faisais passer un peu pour la riche expatriée, alors que...
Complètement, oui.
Ouais.
Ouais. Et voilà, et puis c'était la souffrance aussi, parce que tu pouvais pas inviter des gens chez toi. Puisque ton chez-toi, tu as imaginé, enfin, en tout cas, ce que tu renvoies, c'est pas du tout là où tu vis, donc...
Chaud.
Ouais, c'était pas évident, ouais. Ces années-là. Ouais,
même pour les fringues, même pour des tas de petits trucs, même ouais. Pour, effectivement, pour la conversation, ça doit pas forcément être évident de fréquenter des bourgeois quand tu l'es pas.
En fait, au lycée, ça allait encore, parce que... Finalement, comme j'étais très bonne à l'école et que mes copains et copines, voilà, c'était aussi des très bons à l'école, et donc on se rejoignait vraiment sur ça. Quand t'arrives en classe préparatoire et puis même en école de commerce après, tu vois, il y a les sorties, il y a plus d'accès aux bars, les restaurants, enfin, il y a quand même une vie à côté de l'école. Et là, je pouvais pas m'offrir ces
luxes. Tu pouvais pas suivre.
Je pouvais pas suivre. Donc ce que je faisais, c'est que j'allais traîner avec les personnes qui avaient pas d'argent. Comme moi, donc souvent des boursiers, des personnes qui accèdent à ce genre d'études.
On se repère, on se voit.
Complètement. Ouais.
Ah ouais.
Ouais, tout à fait. Et du coup, j'étais beaucoup plus à l'aise avec ce genre de profil parce que je savais qu'on n'allait pas me dire viens, on va manger au dernier brunch branché, quoi. Bah non.
Donc là, t'es à Paris.
Oui.
L'école de commerce, ça se passe bien.
Oui.
Ça coûte cher une école de commerce, hein.
Tout à fait. Du coup, j'ai fait un choix à l'époque. J'avais eu un certain nombre d'écoles de commerce parce qu'on fait les concours et puis ensuite on est admissible. Alors moi, je savais très bien que j'allais pas être admissible dans des écoles parisiennes type HEC parce que j'avais pas le niveau, clairement. Je savais que j'allais être admise dans des écoles plutôt moyennes. Et dans la moyenne de la moyenne, j'ai choisi la moins chère. Parce que voilà, je savais que j'avais pas envie de faire un prêt déjà pour mes études. Et donc j'ai accédé à une école qui, quand on était boursier, ne faisait pas payer les frais de scolarité.
Et donc, ça, il faut encore que tu vives chez des branches éloignées de ta famille pour vivre à Paris.
Alors là, non. Du coup, je prends un studio, pas loin de l'école, dans le campus, en fait. Et puis là, je vivais des APL. Et ensuite, je travaillais souvent les vacances. Et là, mes parents m'aidaient un petit peu quand ils pouvaient.
Premier petit boulot. Bon, tu crames tout, j'imagine, puisqu'il faut vivre.
Exactement, tout à fait.
Petite histoire, tu faisais quoi comme petit boulot plutôt, toi?
J'ai tout fait, hein. Enfin, j'ai tout fait comme tous les étudiants, mais souvent, enfin, ce qui était bien, c'est que j'avais accès à des choses pas trop pénibles. Donc, typiquement, ça va être donner des cours. J'ai fait des foires, j'ai fait des marchés.
Et tu commences à savoir ce que tu veux faire dans la vie?
Oui et non. Il y a quelque chose qui m'a plu, ça a été le marketing. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien, j'ai envie de faire ça. Et je décide de faire mon premier stage dans une agence marketing. Et puis là, je déchante, quoi. Je tombe des nues. En fait, déjà, c'est un monde où ça paye pas beaucoup.
Ah, tu trouves?
Ah oui, ça paye pas grand chose. Hein. Enfin, surtout quand on commence. Moi, je m'attendais pas du tout à ça par rapport au travail. Et puis.
T'étais payé combien?
Alors, je crois quand tu commences en junior, je sais pas, tu dois être à 30 000 euros annuels brut, quoi. Un peu moins, même 28, enfin, un peu au-dessus du SMIC. Après, 5 années d'études, une école de commerce, pardon, quoi. Enfin, je trouvais que c'était pas assez.
C'était abusé.
Et puis ensuite, c'est un autre monde aussi, parce que les nanas, donc elles sont payées 30K par an, mais elles avaient les nouveaux sacs de luxe, elles étaient super bien habillées, enfin, il fallait tous les jours changer de tenue. Moi, j'avais pas les moyens, en fait, de mettre un nouveau tailleur chaque jour, tu vois. C'est pas possible. C'était pas un monde pour moi. J'ai compris que j'allais pas...
Comment t'expliques que dans cette branche, il y a si peu d'argent et en même temps autant de sinistres, de richesses.
La plupart des personnes avec lesquelles j'ai travaillé, c'était vraiment des enfants de parents qui avaient les moyens, donc qui dépensaient beaucoup, mais parce qu'ils n'avaient pas de problème d'argent, tu vois. Quand tu vis encore chez papa et maman pour ton stage, tout l'argent que tu gagnes, parce qu'on était bien payé en stage, hein, je pense qu'on était autour de 1 000 euros quand même, donc c'était pas mal. Mais du coup, quand t'as 1 000 euros et que tu vis chez papa et maman, c'est pas pareil quand tu dois payer ton loyer.
C'était de l'argent de poche.
Exactement. Et puis, il y a pas mal de pistonnage aussi. Enfin, c'est souvent des gens qui connaissent des gens. Enfin, donc, moi, je m'y suis pas du tout retrouvée, en fait. J'ai bien aimé le métier. Je trouvais ça intéressant. Mais les gens et l'argent, c'était pas possible.
S'il y avait eu plus d'argent, tu serais peut-être restée.
Peut-être, ouais.
Donc, tu changes?
Je change, ouais. Tout à fait. Après ce stage-là, je me suis dit, il faut que je regarde les branches où ça paye bien. Sinon, ça va pas le faire. Donc, je commence à me renseigner, à faire mon benchmark. Je vois que la finance, ça paye pas trop mal. Le conseil, ça paye pas trop mal. Et donc, je me dirige vers le conseil. Et là, il a fallu aussi faire un choix. Et donc là, j'ai fait le choix de rejoindre la branche secteur public. Parce qu'à l'époque, je me suis dit, bon, dans le secteur public, ils partent tôt, en général.
Donc, c'est pas que pognon, ton choix.
C'est pas que pognon, ouais.
Tu te dis quand même, voilà, tu te dis, il me faut de l'argent.
C'est ça. Mais il faut que j'ai une vie quand même pour en profiter. Et donc, voilà, je me suis spécialisée dans le conseil auprès des acteurs du secteur public.
T'avais un objectif de thune ?
Alors, dans ces branches-là, quand tu commences, c'est entre 36 et 40 cas. En junior à l'époque, hein. Maintenant ça augmentait encore un peu. Et moi je voulais du coup gagner 40 000 euros brut annuel, donc j'arrivais à mes entretiens avec ce discours. Bonjour, je veux 40 000 euros brut annuel. Et mon premier CDI, je l'ai négocié à 39 000 euros brut annuel. Et j'y croyais pas au début, parce qu'il m'avait dit on te donne 36 cas, t'es jeune, t'as le temps, etc.
Tu penses que t'avais un discours un peu pushy sur ce thème-là ?
Complètement. Et je l'ai toujours, même aujourd'hui.
Tu penses que ça fait bizarre à, éventuellement à tes interlocuteurs au RH ou
Oui, oui, parce qu'en plus j'évoque la thune au départ parce que j'ai pas envie qu'on perde du temps. Donc je dis mes prétentions et je demande est-ce que ça rentre dans vos grilles salariales. Et quand on me dit non, mais il va falloir revoir, ben je rappelle le, tu vois, le lendemain et je dis merci beaucoup, c'était sympa, je vais pas continuer le process.
Allez, salut.
Ouais.
Donc et tu penses que ça paye en fait d'être aussi pushy?
Je pense que ça dépend des cas, ça dépend de sur qui tu tombes. T'en as qui sont complètement hermétiques, qui vont dire ouais bah il y a des grilles, si tu veux venir chez nous, on est des prestigieux cabinets de la défense. Voilà, c'est un nom aussi que t'intègres. Et puis t'as d'autres qui vont trouver ça assez original, assez sympa, qui vont même rigoler. Et puis puis d'autres qui vont te prendre au sérieux et te dire ok bah on rentre dans les grilles, on peut discuter.
À ce moment-là, tu es assez jeune,
ouais.
Avec les copains que tu as, issus de tes études et de ta vie en France.
Ouais.
Est-ce que tu as l'impression que ton discours est plus axé sur la thune, peut-être ? C'est plus une préoccupation que tes camarades ou que...
Ben, en fait, comme je te disais, plus tu grandis et plus ton cercle devient des gens qui te ressemblent un petit peu. Donc moi, je traînais avec des boursiers comme moi, des personnes qui étaient ben, du coup la plupart issues de l'immigration ou en tout cas deuxième génération, tu vois, qui ont grandi voilà, avec des parents qui n'avaient pas beaucoup de moyens et qui se sortent de leurs conditions.
Est-ce que tu as l'impression peut-être que les élèves plus privilégiés à travers ton cursus, ils en parlent moins ?
Ils y pensent moins, je pense, oui. Moi, je pense qu'on y pense moins quand on n'a pas à compter. C'est pas la principale préoccupation. Moi, j'ai des personnes dans mes équipes maintenant que je manage, des jeunes qui sortent d'école et qui me disent l'argent, c'est pas important. Et moi, j'ai envie de les secouer et de dire bah si, c'est important. Tu fais un travail, tu dois être rémunéré pour. Mais je peux pas parce qu'en fait, quand tu te creuses, c'est des enfants de médecins, tu vois, des enfants de, enfin, qui ont vraiment pas connu la dèche. Donc finalement, ils savent qu'ils vont quand même accéder à des salaires qui sont bien. Et alors, un ou deux cas de plus, ça change rien. Et moi, je trouve ça incroyable, quoi. Je comprends pas, mais bon, j'écoute.
Dès le début, tu commences à compter, toi.
Ouais.
Tu sais ce que tu dépenses, tu craques pas, tu fais pas de coups de folie, tu fais pas de...
Je dépense ce que j'ai. C'est-à-dire que je ne suis jamais dans le rouge.
Jamais.
Jamais. Ça existe pas.
Je me fais en rouge, quand même.
C'est vrai. Par contre... Il y a eu des périodes où, bah, quand on a manqué d'argent et qu'on commence à gagner de l'argent, eh bien, on a envie de le dépenser. On veut s'acheter des habits, des sacs, des chaussures.
Tes voilà. Premiers salaires ?
Ouais, mon premier salaire, ouais.
Tes premiers salaires, tu fais n'importe quoi ? Enfin, tu pètes un peu les plombs tu...
Je pète un peu les plombs, mais en fait, c'est normal puisque quand je commence à travailler, pour la petite anecdote, j'ai un appel de mes parents qui me disent bah, « C'est super, tu vas commencer à gagner de l'argent. Maintenant, il va falloir que tu aides tes frères et sœurs. » Et bah on a besoin de temps.
Temps, c'est combien ?
Alors, ça a commencé avec 300 euros et c'est monté jusqu'à 1000 euros par mois.
Donc, premier job. Mmh. Allô, papa, maman, je suis embauchée. Ouais, super.
C'est ça.
Et puis, deuxième coup de fil. Mmh. Et maintenant, il faut donner 300 euros. Tu t'y attendais ?
Oui, je m'y attendais. Bien sûr que je m'y attendais parce que je savais que bah déjà les affaires ça allait pas trop. Puis quand tu sais, mon père commençait à être vieux, donc à un moment donné il y a pas de sécurité sociale là-bas, il y a pas de chômage, il y a pas de, enfin il y a pas d'autre source d'argent que l'argent que tu fais rentrer toi-même. Et puis en fait dans notre culture c'est normal d'aider les autres. comme je t'ai dit, moi, on m'a accueillie gratuitement dans ma famille, sans poser de questions. Donc, je savais que quand j'allais gagner de l'argent, j'allais devoir aider. Enfin, c'était logique, en fait, pour moi.
Et le montant, à ton avis, il est calculé comment ?
Alors, ça dépend, en fait, pour payer quoi ? La première chose que j'ai payée, c'était les frais de scolarité de mes frères et sœurs, qui étaient à l'école française aussi. Et donc, voilà, ça s'élevait à 300, 400 euros par mois.
Donc, toi, au début, tu gagnes 2300 euros net par mois, à peu près.
Oui.
Et il y a 300 balles qui partent directement, 300 ou 400
oui.
par mois.
Oui, tout à fait. Sans compter les imprévus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il va y avoir des mois où il n'y a pas de rentrée d'argent et ma mère, elle va m'appeler en me disant « on n'a rien à manger ». Et je l'ai vécu, du coup, ça. Quand, des fois, on n'avait rien à manger, on buvait de la soupe. Et donc, moi, je vais voir de l'argent dans mon compte et je vais leur dire « attendez, je vous envoie de quoi acheter des cours ce mois-ci pour aider ».
Le prix de la vie, le coût de la vie n'est pas le même aux Comores qu'en France. Tu disais, le salaire moyen, c'est éventuellement 100 euros par mois.
Exactement, ouais.
Donc, quand on voit 300 euros par mois, en réalité, c'est des sommes assez colossales que tu envoies là-bas.
Oui et non. Clairement, quand tu payes une école française et que tu dois la payer 3000 euros l'année, c'est pas tout le monde qui a accès à ce genre d'endroit. Donc, on va dire que les entrepreneurs qui gagnent bien leur vie, ils peuvent se verser entre 1000 et 1500 euros. Les hauts cadres ou les personnes tu vois, qui viennent de l'étranger, enfin les expatriés, tu vois, c'est des salaires d'ici, 2500 euros par mois.
Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu commences à payer cette espèce de surimpôt familial ?
Écoute, j'étais fière. Moi, j'étais contente. En fait, je me disais, je gagne de l'argent, c'est normal d'aider puisqu'on m'a aidée. C'était complètement normal.
Et par rapport aux envies que tu peux avoir, toi,
oui.
à ce moment-là,
oui.
de t'acheter...
Mais du coup, je claquais tout. En fait, il y avait une partie que j'envoyais à mes parents, puis je payais mes charges obligatoires, et puis le reste, je me disais, attends, tant qu'à faire, je me fais plaisir, et donc je claquais tout, tout ce qui restait. Donc à la fin du mois, il ne me restait rien, il ne restait rien du tout.
Donc pas d'épargne.
Pas d'épargne. Alors, j'ai l'impression de bien vivre... On va dire la première année, oui, j'ai l'impression de bien vivre. Et puis en fait, encore une fois, l'environnement avec lequel tu vis, enfin tu traînes au travail, t'as les gens qui gagnent la même chose que toi, qui commencent à investir, qui commencent à acheter leur résidence principale, qui commencent, tu vois, à vivre dans des beaux quartiers et à s'acheter des choses que toi tu peux pas t'acheter par ailleurs parce que ton impôt familial de 400 euros par mois, ça reste quand même pas mal d'argent que tu n'as pas à la fin du mois. Donc moi, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je gagne plus, donc, pour pouvoir me payer plus de choses. Et là, ça a été la course à avoir des promotions, aller négocier mon salaire, gagner plus d'argent, voilà. Et en fait, ça ne changeait pas du tout ma condition, parce que je continuais à faire la même chose. Plus je gagnais, plus je donnais à ma famille, et plus je dépensais le reste.
Alors attends, comment ils savaient ta famille que tu gagnais plus parce et qu'ils pouvaient te demander plus ?
Parce que je le disais comme voilà, je vais pas m'insulter moi-même, mais
ouais, je le dis pour toi comme une conne, tu le disais.
Voilà, c'est ça, parce que j'étais fière. J'étais fière de monter les échelons, de gagner plus d'argent, et je partageais ma joie. Mais je me rendais pas compte que j'étais en train de moi-même me tuer, tu sais.
Mais ta famille, est-ce que c'est mécanique que si tu leur dis que tu gagnes plus, forcément, ils vont te demander plus.
Complètement, oui. Mais c'est normal, t'en as pas besoin. T'as pas besoin d'autant d'argent, puisque tu gagnes plus. Je me rappelle, quand j'ai commencé, je gagnais 3000 euros net par mois. Et à ce moment-là, j'envoyais 1000 euros par mois à ma famille. Ouais, je te laisse calculer, du coup.
Ah la vache.
Donc, je pouvais pas épargner, en fait. Hein, parce que
même se loger à Paris, c'est pas évident. Hein.
Oui, après, moi, j'étais pas toute seule. Quand j'ai commencé à travailler, je me suis mis en couple. Donc, c'est vrai que j'assumais pas toute seule mes charges fixes. Ce qui aidait hein, à sortir un cas par mois pour la famille. Ouais.
Alors, on va s'arrêter un peu là-dessus. Même pour se mettre en couple, c'est pas évident. Bonjour, alors voilà, j'ai un petit secret financier dans le placard.
Ouais.
Comment ça s'est passé pour parler de ça avec ton conjoint ?
Alors, lui aussi, il est comorien d'origine. Et en fait, lui aussi, il vivait exactement la même chose. On s'est rencontrés par hasard, mais est-ce que c'était vraiment un hasard ? J'en sais rien. Je pense qu'il se ressemble, ça semble. Et en fait, lui aussi, il vivait la même chose un peu en parallèle, où il est venu en France faire ses études, il venait d'une famille où ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais les études, c'était super important. Il était premier de la classe dans tout son cursus, et quand il a fini ses études, de façon très logique, il a aidé le reste.
Tu te rappelles quand vous en avez parlé pour la première fois ?
Oui, alors il est un peu plus âgé que moi, donc lui, il avait commencé ça avant moi, il connaissait déjà bien, et c'était quand on a fait les comptes pour la première fois. Et il m'a dit, moi j'envoie tant, et toi ? Et moi aussi j'ai dit, moi j'envoie tant.
Ça faisait pas question ?
C'était pas question, non.
Est-ce que c'était des sommes comparables ?
Alors,
par rapport à vos revenus, quoi ?
Ouais, c'était des sommes assez comparables. Après, lui, il avait commencé tôt, donc il commençait à freiner un petit peu, parce qu'à force, en fait, il faut une vie. Si tu ne fais qu'envoyer de l'argent à ta famille, toi, il te reste rien pour construire ta propre vie.
Ah, lui, il avait commencé cette petite démarche de commencer à dire un peu non.
Exactement.
Ce que toi, tu n'avais jamais fait.
Pas encore, non. mais on était conscients et on était au courant et ça faisait partie de notre dette. C'était notre dette familiale, c'est qu'on a réussi et qu'on devait, on se devait d'aider le reste en fait. Après, il y a deux choses. C'est que moi, tout ce que j'ai donné pour aider mes frères et sœurs à faire leurs études, je considère que c'est un investissement parce que ça veut dire que demain, ils vont pas me demander de l'argent pour vivre. Je sais que ça va les rendre indépendants et que ça leur permettra de vivre leur vie. Par contre, il y a un deuxième point, c'est les autres dépenses. Alors, il y a les dépenses obligatoires, donner de l'argent à ma mère pour qu'elle s'achète à manger, mais il y a les autres dépenses superflues. Je vais te donner un exemple. Aux Comores, les mariages, c'est comme en Inde, tu sais, c'est des grands mariages où on dépense énormément d'argent. Mais vraiment, c'est des mecs qui gagnent 1 000 euros par mois, ils vont aller faire leur grand mariage à 50 000 euros. Voilà. C'est une consécration, ça permet en fait à la personne d'avoir le statut de notable. C'est un des plus hauts niveaux de reconnaissance dans la société. Et ce truc-là, tous les ans, tu dépenses au moins entre 2, 3 000, 4 000 euros pour assister au mariage des gens de ta notabilité.
Et donc là, c'est un mariage qui n'est pas le tien, tu vas à un mariage et tu donnes 2 000 balles.
Exactement, tout à fait. Et donc ça, par contre, c'était le pire pour moi quand mes parents me demandaient de les aider pour participer à ce type de festivité et que je regardais mon compte et que j'avais plus d'argent à la fin du mois, mais que j'ai aidé à payer des études, à financer les mariages des gens que je ne connaissais pas. C'est là où ça commençait à bouillonner.
Ça me fait un peu rigoler parce que, effectivement, financer le mariage de gens que tu ne connais pas, j'entends bien que ça doit être assez pénible. Et en même temps, si je me mets dans les chaussons de tes parents... Si j'essaye, en tout cas, pour eux, ne pas être en capacité financière d'assister à ce mariage, ça doit être une forme d'opprobre sociale qui doit être assez dure à avaler, non ?
Complètement, oui, tout à fait. Ils sont obligés d'y aller et d'y aller avec de l'argent parce qu'ils faisaient partie d'une.
Sinon, tu vas pas.
Sinon, tu vas pas, mais tu peux pas ne pas y aller parce que c'est un petit pays. C'est presque
une insulte auprès des gens qui célèbrent la chose de pas y aller.
Complètement. Et alors, t'as les mariages des gens, mais t'as les mariages des gens de ta famille. Où tu dois aussi aider. Moi, je me rappelle, ma mère, un jour, elle m'appelle, elle me dit, oui, il y a ta cousine, machin, qui se marie. Il est de coutume, comme c'est ta cousine, de lui envoyer comme cadeau, c'était des meubles pour sa chambre. 2000 balles. C'était ma prime de cette année-là, je me rappelle. Franchement, je l'ai mal vécu, tu vois.
2000 balles de meubles et toi tu peux pas t'acheter la même chose.
Ouais, et puis je parle pas à cette personne, tu sais.
Tu sais pas qui c'est, la cousine machin.
Si, je la connais. Voilà.
Ah ouais.
Ouais. Donc c'est là où ça commençait à être compliqué.
Alors est-ce que ça veut dire que t'as commencé à te dire que t'avais un droit de regard sur leurs dépenses du fait que c'est toi qui les finançais ?
Ah oui. Comme ça ne rentrait pas dans les études, dans les trucs obligatoires, où moi j'étais convaincue que c'était un investissement, alors après on pourra toujours se questionner. Est-ce que c'est à moi de financer les études de mes frères et sœurs, alors que je vais encore financer les études de mes enfants? Quand est-ce que je vais m'arrêter, tu sais? Mais c'est vrai que oui, en fait ça me dérangeait de financer des choses qui n'étaient pas obligatoires, à mon sens, hein, parce que pour eux c'était obligatoire. Mais en fait, moi, j'avais ma vie parisienne, quoi. Donc, il y avait aussi des obligations que j'avais. Et comment je fais pour vivre tout ça? Et je pouvais pas continuer à aller chercher plus d'argent. Ça allait jamais s'arrêter, en fait. C'était les dépenses qu'il fallait regarder depuis le départ. C'était pas ce que je gagnais.
J'ai l'impression que ton mari a pu avoir une sorte d'influence sur toi à cet égard, puisque lui, il avait commencé à mettre un frein, comme tu disais.
Je pense qu'on s'est auto-entraîné dans le côté positif, où effectivement, il a commencé à freiner de son côté. Après, lui, c'est que dès qu'il y avait une urgence, par exemple, médicale, bah, il comptait pas ses sous pour envoyer, tu vois. Il
quelqu'un qui tombe malade au Comores.
Oui, voilà, de sa famille, bien sûr, proche. C'était, enfin, voilà, il aidait quand il fallait payer des études, il aidait. En fait, ça restait annuellement des grosses sommes. C'est juste qu'il s'est limité par mois à envoyer genre 100 euros, 200 euros. Enfin, ça reste transparent par mois. Mais annuellement, quand tu fais les comptes.
Ah oui, parce que tout d'un coup, ça, il s'est limité par mois. Mais en fait, tout d'un coup, il va y avoir un imprévu, deux imprévus, trois imprévus.
C'est ça.
Et en fait, à la fin, ça fait quand même une somme astronomique.
Ouais, complètement. Le vrai déclic, on l'a eu. Avec le Covid, parce que quand il y a eu le Covid, moi je suis tombée malade, j'ai eu le Covid, c'était assez compliqué, j'étais arrêtée un mois, c'est là où j'ai réfléchi et je me suis dit, mais si je meurs aujourd'hui, je le laisse dans la merde, avec deux enfants, enfin à l'époque j'en avais qu'un.
Ton mari, ouais.
Mon mari, je le laisse dans la merde avec un enfant, on n'a pas d'épargne et on n'a pas de filet, parce que nous il n'y a personne qui va nous sauver, nous on sauve tout le monde, mais qui va nous sauver? Personne. Donc là, gros déclic.
Là, t'as eu une révélation.
Révélation.
Est-ce que ça peut arriver avant ça que parfois t'as eu l'impression qu'on te raconte des cracks?
Franchement, non. Je sais, enfin, tout ce que j'ai envoyé, je savais exactement où ça allait. C'est pas du tout dans notre famille de mentir sur l'utilisation de l'argent. Ma mère, elle va me dire qu'elle s'est acheté une robe alors que c'était pas prévu. Ça m'énervait. Parce que tu comprends, il y a le mariage de sa copine et qu'elle a déjà mis la même robe trois fois dans des mariages et elle en avait besoin, c'était très urgent. Et en plus, le côté urgentissime de trucs comme ça qui sont hors sol par rapport à toi et ta vie. Mais non, on m'a jamais menti sur l'utilisation de l'argent.
Vous avez des vies très très différentes.
Ouais, complètement.
Toi, tu comprends, même si t'acceptes pas forcément, tu comprends leurs urgences financières.
Oui.
Mais tu peux les trouver inutiles ou
oui.
Pas justifiées, mais tu les comprends.
Oui, tout à fait.
Est-ce que eux, ils savent ce que tu dépenses, comment tu vis, le prix de la vie ici?
Alors au début, je disais pas beaucoup. Je faisais comme tous les gens qui sont en France et qui envoient de l'argent aux Comores ou dans leur pays d'origine. Hein. Je pense que c'est un syndrome qui touche plein de monde. C'est que comme là-bas, ils ont l'impression qu'ici on est mieux. Eh bien, tu peux pas leur dire que toi tu galères. Donc au début, je ne parlais pas de ce que, enfin, de ce que me coûtait ma vie ici. Puis à un moment donné, je me suis dit en fait, il va falloir. Parce que je vais pas m'en sortir. Je vais pas m'en sortir si je ne dis pas qu'en fait moi aussi j'ai des charges. Moi aussi ça me coûte ça de faire, enfin de vivre en fait, tout simplement. Et que si je continue comme ça, j'allais pas m'en sortir.
Et tu vivais à Paris même? Vous viviez à Paris même avec ton...
Non, on vit en petite couronne.
Ouais, c'est ça. T'as pas les moyens de vivre à Paris.
J'ai pas les moyens de vivre à Paris. Non. Je peux pas mettre 2 000, 2 500 euros de loyer par mois. C'est pas possible.
Ouais.
Non.
Et tes plus grosses dépenses, à part le loyer, à part les charges fixes, toi, en général, dans ta vie, c'est quoi?
Les vacances. On essaie quand même de partir quand on peut. Et puis...
Les vacances, tiens.
Ouais.
Y a aussi une autre petite forme de taxe, j'imagine, parce qu'il faut retourner aux Comores de temps en temps.
Oui.
Ça coûte combien, un billet?
Alors, en période de haute saison, donc l'été, ça va aller jusqu'à 1 500 euros par personne. Et en période hors été, c'est entre 700 et 1 000 euros.
Toi, tu as deux enfants?
Oui.
Donc, de toute façon, tu as une enfant qui a 6 ans maintenant.
Exactement.
Tu peux pas tellement lui faire rater l'école?
Non.
Je sais pas si
impossible.
Tu fais. Impossible.
Oui. Bah, ça, c'est notre héritage.
Et c'est pas la culture, j'ai l'impression. Donc, tu vas aller là-bas en période de vacances scolaires?
Exactement, oui.
Tu vas payer plein pot. Vous allez payer plein pot. 3 ou 4 billets.
À 5 000 euros.
Bam.
Et bah, c'est impossible d'y aller tous les ans, du coup. On se donne pour objectif d'y aller tous les 3-4 ans. Et puis le reste du temps, visiter le monde, en fait, parce que 5 000 euros, juste les billets.
Et quand tu arrives là-bas, il faudrait que tu apportes des choses?
Exactement, oui. Je pense que ça se fait dans plein d'autres cultures, hein, mais tu ne peux pas arriver les mains vides. Donc tu dois amener des cadeaux pour ta famille proche, mais aussi toute ta famille éloignée, qui pense qu'en France, tu as une vie de prince, quoi. Et puis ensuite, il faut ramener de l'argent, parce qu'en fait, tout ce qui va se passer là-bas, c'est toi qui vas payer, parce que c'est toi qui viens de France. Donc les sorties, la nourriture, l'électricité, l'essence dans la voiture, et puis on va te demander un petit billet ici et là, le voisin qui n'a plus de couche parce que son enfant, je sais pas, bref, et tu dois donner.
Comment tu te sens? Est-ce que c'est gratifiant au moment où t'es là-bas? Est-ce que t'es pas un peu la reine du monde quand même?
On a fait une notation quand on est rentré sur ce voyage, parce qu'on aime bien noter nos voyages et nos vacances. Moi, j'ai donné 0,5 sur 10.
T'as fait une notation comme TripAdvisor, quoi. T'as mis une note, ok.
Et mon mari, il me dit, mais non, t'exagères, c'est 3 sur 10.
T'as pas du tout, t'as sale tripé de ouf, quoi.
Ah, complètement.
T'as passé le pire moment de ta vie.
Ouais. Alors, on s'était bien préparé, hein. Ce voyage-là, il nous a coûté 10 000 euros. Entre les billets et tous les cadeaux qu'on a ramenés et tout l'argent qu'on dépensait sur place. On n'a pas dépassé ce budget. On est resté sur notre budget, encore une fois, toujours à zéro.
Je sens que ça aurait été facile de dépasser.
Mais bien sûr, il y a beaucoup de sollicitations, même de gens que tu connais pas, qui viennent chez toi, et puis ta mère va dire, donne-lui quelque chose. Mais c'est qui? Oui, c'est ta cousine Germaine du côté de la grand-mère de je sais pas qui. Ah, d'accord, ok, 10 euros.
Et ça t'arrive beaucoup de dire non, dans ce moment-là?
Non. Impossible.
Tu peux réduire la somme, mais tu peux pas dire non.
Exactement.
Tu peux filer moins, mais tu peux pas.
Non. Parce que ce serait la honte de la famille. Parce qu'en plus, venant d'une famille qui prétendument est aisée.
Bourgeoise.
Bourgeoise. Ouais. C'est de coutume de donner aux autres qui n'en ont pas. Et donc, ce serait la honte si la fille du mec qui a réussi dans tout le village n'accepte pas de donner 1 euro, enfin, tu vois, 500 francs, c'est 1 euro, à un mec qui peut pas payer les couches de son enfant, quoi.
Ouais,
t'imagines la réputation.
T'es un monstre.
Ouais.
Tu deviens un monstre.
Donc, je donnais, mais je limitais quand même.
Mais j'ai l'impression que t'as pas l'impression d'être plus aimé parce que tu donnes ou parce que t'as réussi. Tu dois, en fait, donner. C'est plus une obligation que...
Oui. Et puis, je pense que ça s'arrête jamais. C'est-à-dire, plus tu donnes et plus tu dois donner. C'est un espèce de cercle vicieux auquel c'est difficile d'en sortir.
Et ça a pas l'air de te rendre très heureuse, parce que, alors que c'est pourtant ce que tu voulais.
Oui.
T'as tout fait pour arriver à cette position.
Tout à fait. Alors, ça me semblera pas malheureuse, mais c'est vrai que c'est un constat. C'est compliqué. Il faut le conscientiser. Tu vois? Moi, je considère que ça fait partie de moi, de qui je suis.
Alors, tu peux en parler avec ton mari.
Oui.
Mais tu peux pas tellement en parler avec tes parents. Si? Est-ce qu'ils comprennent? Comment ils disent? C'est pas évident.
J'essaye d'en parler justement, de plus en plus, pour faire comprendre qu'on peut pas continuer comme ça. Et je sais qu'ils comprennent pas, mais ils écoutent. Voilà.
C'est une façon de discuter qui existe. Hein,
bah oui, voilà. Mais c'est comme moi. Enfin, moi, je comprends pas.
Ça a pu donner lieu à des engueulades?
Ça a donné lieu à des engueulades, surtout quand on a décidé de couper les vannes. Parce qu'il y a eu décision de couper les vannes. Et oui, ça a donné pas mal d'engueulades, on s'est pas parlé. J'ai été la petite fille ingrate. Alors, je te laisse imaginer, hein, toute ma vie, j'ai donné un tiers de mon salaire quasiment par mois. Et on me traite d'ingrate, que je veux pas aider, etc. Je suis devenue française. Ça, c'est une insulte hein, quand on me dit ça.
Alors, c'est pendant le Covid que tu te dis, ça va pas, il faut que je prévoie de l'épargne, personne n'a de l'épargne, les parents n'ont pas d'épargne, j'ai pas d'épargne.
Exactement, oui.
Faut qu'on change de... T'en parles à ton mari, j'imagine, d'abord.
On en parle. Alors, on avait déjà un peu cette idée, surtout après ce fameux voyage de la mort. Et donc, on se disait déjà que, vous voyez, ça va pas continuer comme ça, en fait. On va dans un espèce de trou, on va jamais s'en sortir. Et c'est vrai que, vous voyez, le Covid, moi, a été assez révélateur. Parce que j'ai été consciente de ma propre... possible mort, si je puis dire. Et ça m'a fait flipper, ouais, pour mes enfants et puis pour lui. Parce que bon, enfin, si je suis morte, hein.
Oui, c'est pour ceux qui restent.
Ouais. C'est ça, ouais.
Et alors, comment ça se passe pour en discuter avec tes parents et ou avec les siens? Et surtout, comment vous décidez de couper les vannes?
On est allé par étapes. La première étape, ça a été de faire la liste des dépenses, la chose que vraiment j'ai mis de côté. Tu vois, je te disais, j'ai tout le temps cru qu'il fallait gagner plus et j'ai pas regardé où allait mon argent. Donc voilà, on s'est posé, hein, on a listé toutes nos dépenses, là où allait notre argent, on a fait un bilan. En plus, ça c'est mon métier, donc shame on me, quoi. Enfin, la honte. Et donc on a listé toutes nos dépenses et on s'est dit, il fallait qu'on arrive à épargner telle somme par an, ce qui correspond à temps par mois.
Bah, tu dis-moi les sommes, parce qu'on est vraiment dans le podcast.
À ce moment-là, on voulait chacun pouvoir épargner 800 euros par mois.
Chacun.
Chacun. Ce qui était assez correct par rapport au niveau de salaire qu'on gagnait.
Tu gagnes combien? Vous gagnez à peu près à combien à ce moment-là?
Alors, à ce moment-là, je devais être à 3 000, 3 500, enfin, entre 3 000 et 3 500 net. C'est plutôt bien. Donc, en fait, 800 euros sur 3 500, quand vous êtes à deux, c'est pas. Enfin, c'est pas déconnant, hein, enfin, je trouve, hein, personnellement. Donc, on décide de faire ça. Donc, ça faisait 1600 euros. Et puis, donc, par rapport à ça, on regardait toutes nos dépenses obligatoires. Et après, on regardait ce qui restait. Et dans ce qui restait, on divisait par deux. on prenait une partie, c'était nos loisirs, et une partie où on divisait par deux pour donner à nos familles. C'était ce qu'on donnait de façon fixe.
Du coup, tu arrives à combien par personne de dons à la famille?
Alors moi, je suis arrivée à 300 euros par mois. Ce fameux 300 euros, j'en reviens à chaque fois, j'ai l'impression.
Alors que tu étais à 1000.
Exactement.
Quand tu as pris cette décision.
J'étais à 1000. Et lui, 200 euros par mois.
Et pareil, alors qu'il était à des sommes bien supérieures.
Oui.
Avant de faire ce calcul.
Tout à fait.
Ah bah, ils ont dû être contents que vous fassiez vos petits calculs de Covid dans vos familles.
Ouais, non, je pense pas. Non, je pense pas du tout. Après, l'explication est allée aussi par étapes. Hein. Moi, j'ai expliqué le cheminement, les projets que je voulais faire et que du coup, j'avais besoin d'argent.
Après, c'est vachement dur. C'est-à-dire que ça fait une coupe drastique.
Oui, complètement.
Tu arrives vers les gens en leur disant, bah voilà, il y avait 1000 balles par mois et puis tout d'un coup, il y a 200. C'est raide.
Après, juste pour te redonner un peu le contexte, les 1000 euros que je donnais à un moment donné, c'était aussi parce que j'aidais ma sœur qui faisait des études et elle venait de finir ses études. Donc, c'était une partie déjà que je récupérais. Sauf que eux, ils auraient aimé que je leur redonne à eux, enfin, tu vois, à mes parents, que je continue. Le fait de ne plus financer les études de ma sœur, ça me permettait de récupérer une économie de 300 euros, tu vois, ou 400 euros.
Mais du coup, est-ce qu'on te taxe d'être une mauvaise fille, de pas être sympa?
Oui. Au début, oui, on m'explique que c'est pas normal. J'ai pas envie d'aider alors que je peux aider. Et puis après, ça se tasse, quoi, parce que au final, en réalité, même maintenant, quand il y a des urgences, quand il y a quelqu'un qui est malade, quand ils ont vraiment rien à manger, honnêtement, je vais envoyer de l'argent à mes parents, quoi. Enfin, j'ai beau avoir un discours assez...
T'as laissé le curseur, mais en fait, ça permet quand même de...
Exactement. Et du coup, quand j'envoie de l'argent en plus, de temps en temps, je me sens pas mal, tu vois. J'ai pas l'impression de perdre quelque chose. Je me dis, bah écoute, là, ils ont besoin de 200 euros en plus, je vais donner 200 euros en plus.
Ça te coûte moins d'envoyer maintenant.
Ça me coûte moins, exactement, ouais.
Mais ça a dû être vachement dur en termes de culpabilisation, enfin de culpabilité.
Ouais, complètement.
De réduire la voilure.
Mais même maintenant, des fois, je culpabilise, hein. Parce que du coup, maintenant, je gagne encore mieux, parce que, comme je te disais, je vais tout le temps négocier mon salaire.
C'est quoi? Le cauchemar de la DRH.
Oui,
Madame Fatima. Oh, c'est encore vous.
C'est ça. Et c'est vrai que des fois, je me dis, ouais, je pourrais donner plus. Hein. Parce que
là, t'es à combien?
Un peu plus de 4000. Et.
Plus tu dois avoir des primes.
Exactement. Mmh. Et donc, j'économise plus, du coup. Mais ouais, des fois je culpabilise et je me dis bah là ils ont pas forcément à manger au quotidien. Alors moi la nourriture c'est important hein, parce que comme j'en ai manqué quand j'étais petite parfois, ben je me dis ouais peut-être que je devrais donner un peu plus. Et là il y a ma raison qui dit bah non, tu dois t'y tenir, c'est comme ça, c'est le projet, c'est le plan.
T'as réussi à mettre combien de côté là?
On va dire en 3 ans 70.
70 quarts?
Oui.
À deux.
Oui.
Vous avez épargné 70 000 euros.
Oui.
Est-ce que vous les avez placés?
Oui. Alors, il y a une partie, c'est les primes, tu sais, qui sont dans les plans d'épargne d'entreprise.
Puis après,
c'est l'intéressement, la participation. Avant, je l'ai touché, hein, pour le coup.
Parce que les encaissais très vite. Je
les encaissais à chaque fois.
Pour les envoyer.
Bien sûr. Et ensuite, c'est l'épargne qu'on met de côté tous les mois.
Pour l'instant, c'est sur des livrets, vous n'avez pas encore acheté ou quoi que ce soit?
Oui, c'est en cours. C'est un projet en cours.
T'as un projet en cours comme ça?
Ouais, d'acheter notre résidence principale.
Si t'achètes ta résidence principale, ça veut dire que ce sera de l'argent qui sera plus liquide.
Exactement, oui. Tout à fait.
Et ça veut dire que s'il y a un imprévu ou quelque chose.
Oui, c'est ce qui m'a freinée jusqu'à maintenant, j'avoue.
Bah, c'est pas évident.
Ouais, c'est pas évident parce qu'en fait, tu sais, de passer à zéro à pas mal de thunes sur les comptes et de se dire qu'on va s'en débarrasser, entre guillemets, ça me crée quand même. Un peu de frayeur.
Ça te rassure quand tu regardes ton compte en banque maintenant?
Complètement. Je suis une autre
femme. Tu le fais
femme.
Des fois pour kiffer?
Ouais.
Non, mais c'est vrai. Tu te branches, tu te connectes sur ta banque et tu
complètement.
Te dis, j'ai 20 000, j'ai 30 000, j'ai 40 000.
C'est ça. Puis en fait, ça allait vite. Hein. Je te dis, c'est en 3 ans. Mais t'imagines si depuis j'ai commencé à travailler, on avait fait ce travail? Après, je sais que je compare avec les autres personnes qui ont le même niveau que moi, qui ont fait les mêmes études que moi et qui sont parties sans cette dette familiale. Et aujourd'hui, ils sont déjà propriétaires, par exemple, tu vois. Donc c'est là, la différence, elle est là quand même. Hein. On n'a pas encore rattrapé ce retard qu'on a pris des gens qui sont au même statut que nous, en fait. Mais c'est pas grave, je le vis pas trop mal.
Par rapport à tes collègues ou tes amis, t'as encore l'impression d'être un peu en dessous? Ou est-ce que t'en souffres, ou est-ce que ça te pose question?
Longtemps, ça m'a posé question et j'en souffrais parce que moi, j'ai pas de problème à parler de thunes. Sauf que quand tu parles de thunes et que tu dis tu gagnes 3000 euros, 4000 euros, et puis on te dit mais il va où ton argent? T'as pas une belle baraque, t'es pas propriétaire, tu vois, t'as pas une belle voiture, tu n'as pas des sacs de luxe plus que ça, puisque enfin ça reste moyen gamme quoi. Mais il va où ton argent? Et ça c'est un jugement, je supportais pas. Du coup j'ai arrêté de parler de thunes avec mes amis, mes collègues.
Tu peux pas le dire que l'argent il part.
Des fois t'expliques et puis après t'arrêtes en fait d'expliquer. Parce qu'il y a des gens qui peuvent pas comprendre. La première fois j'ai essayé d'expliquer à quelqu'un qui a pas vécu cette situation. Parce qu'en fait, c'est pas que les Comoriens, hein. Il y a plein de personnes qui vivent ça, des Asiatiques, enfin, des gens d'Afrique noire, enfin, bref, t'en as plein. Mais la seule fois où j'ai essayé d'expliquer ça à une Française, tu vois, eh bien, elle m'a dit, mais pourquoi tu les aides? Mais pourquoi tu fais ça? Déjà, ça m'a marqué, et je me suis dit, mais je vais jamais en parler. J'étais un ovni, en fait. C'était, mais t'es pas obligé. Ils doivent se débrouiller. Pourquoi t'es obligé? Ah, va expliquer, c'est culturel, tu comprends, enfin...
C'est pas arrivé que tu fréquentes des gens, justement, tu parles d'Asie, d'Afrique noire, etc., d'autres personnes issues de l'immigration, qui soient dans la même situation. Est-ce qu'il y a parfois une connivence?
Alors, on s'en parle sans s'en parler, quoi. Bon, on peut se dire, t'envoies de l'argent à ta famille, oui, ah, c'est bien. Mais on débat pas là-dessus, quoi.
Ah, donc t'as pas beaucoup de zone pour en parler, en fait?
Non. Pas trop.
La chance a voulu que tu aies un mari avec qui tu puisses avoir ce dialogue, mais
complètement, ouais.
Sinon tu es un peu seule par rapport à ça.
Oui, après ma sœur, elle est grande, donc on peut en parler. Et elle est l'opposé de moi, et c'est génial. Parce qu'elle est vraiment dans une posture où, quand c'est pas obligatoire, j'aide pas.
Non.
Non. Et j'adore, enfin, ça me fait mûrir aussi, enfin, ça me fait grandir quand je l'observe. Parce qu'elle met en priorité sa propre vie. Alors, je pense qu'elle a le luxe de le faire parce qu'elle, elle a pas vécu la dèche, tu vois. Mais du coup, j'admire aussi, hein, parce que poser des limites comme ça, c'est dur quand même.
Vous êtes trois?
Oui.
Donc, c'est sur vous que va reposer la retraite de vos parents?
Exactement, oui.
Est-ce que vous allez vous concerter? Est-ce que vous allez convenir d'un budget? Ou est-ce que c'est la one again, quoi?
Non. On a déjà discuté. On a déjà évoqué comment on pourrait s'organiser pour ça.
Et, ils ont quel âge, les autres, là, pour l'instant?
28 et 21. Le dernier, il fait encore des études, il n'a pas fini. Et l'autre, elle travaille. Et en fait, on a déjà discuté. On sait à peu près qu'on aidera à la hauteur de nos moyens.
Donc au prorata de vos salaires?
À peu près, oui. Ou en tout cas du reste à vivre, hein, parce que en fait, nos salaires, il y a toutes les charges derrière. Donc,
Ah oui, parce qu'il y a les enfants. Exactement. Si t'as deux enfants, c'est pas pareil que si t'as pas d'enfants.
Tout à fait. Donc c'est plutôt sur le reste à vivre, c'est sur ça que je me base. Et je me dis, c'est un pourcentage du reste à vivre, sans se mettre dans la merde. Voilà.
Et vous avez décidé qu'il faudrait combien pour vos parents?
Alors eux, ils aimeraient bien avoir 1000 euros par mois, je pense.
Donc vous seriez trois à vous cotiser pour qu'il y ait 1000 euros par mois.
Non, je pense que, enfin, on verra le niveau de vie à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec 500 euros, tu peux bien vivre, quoi, au coma, avec leur niveau de vie, hein, parce qu'il y a des gens qui vivent à 100 euros, hein, ou 50. Enfin, mais ouais, je pense 500 euros, c'est très bien. C'est une bonne somme et on met un peu de côté pour les urgences, l'hôpital, les maladies, etc.
Ouais, donc c'est vraiment très organisé. Vous avez complètement organisé la chose, quoi.
Oui.
Les mains dans le cambouis, vous avez regardé le budget en face.
Oui.
On n'est pas sur de l'intuitif ou...
Non, mais on était obligé de se poser et de faire ça, hein, parce que... En fait, on allait droit dans le mur. Hein. Après, c'est mon métier. Hein. Enfin, moi, je travaille pour des entreprises où je gère des budgets, où je vois quand ils vont droit dans le mur, du coup.
Toi, tes enfants, t'as pas spécialement envie qu'ils aient cette dette, j'ai l'impression.
Pas du tout. Je suis contre. Mais c'est une trop grosse dette. Mais du coup, la question que je me pose, c'est mais si je les élève en leur disant qu'ils sont pas obligés d'aider, mais ça fera pas d'elles des grosses radines. Tu vois? C'est un peu ambivalent dans ma tête. Je me dis, oulala, mais est-ce que, du coup, elles vont se dire, bah, c'est pas notre problème, puis nos parents, on les fout à l'EHPAD et c'est fini pour eux, quoi. Je sais pas. Mais...
Ouais, parce qu'il y a quand même une générosité dans ce système-là.
Complètement, oui, tout à fait. Chez nous, il n'y a pas de maison de retraite aux Comores. Donc un parent, il reste avec ses enfants jusqu'à ce qu'il meure. Donc les enfants assument la fin de vie. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée en France et que j'ai vu les EHPAD, les trucs comme ça, je m'étais là, waouh, ils font ça à leurs parents.
Quel monstre.
Quel monstre. Et après, j'ai vu la vraie vie, j'ai vu le coût de maintenir quelqu'un chez soi, et de devoir travailler ou prendre quelqu'un et payer quelqu'un. Enfin, mais c'est impossible. Hein. Il y a très peu de gens qui peuvent se permettre en France. Mais c'est vrai que donc ça questionne sur moi, ma fin de vie. Est-ce que je dois tout faire pour que ma fin de vie, j'ai pas besoin de mes enfants? Si je veux vraiment appliquer le fait qu'il n'est pas à nous aider, enfin, je sais pas, c'est des questions.
Mais ils sont petits, hein. Six ans et six mois pour l'instant.
Ouais, mais...
en revanche, ce qui pourrait arriver, peut-être, je sais pas, c'est qu'on te demande de faire le geste qui a été fait pour toi, d'héberger, d'accueillir des petites filles ou des petits garçons qui viennent des Comores. Ça serait possible, ça?
On m'a déjà demandé et j'ai dit non. Ouais, je sais.
Oh la vache!
Ouais, je sais, hein. C'est horrible.
Alors, vas-y, bah attends, explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Comment ça s'est passé déjà?
J'ai dit non quand c'était de la famille, quand c'était pas de la famille proche, hein, parce que on a quand même accueilli ma sœur, on a accueilli une autre, enfin, voilà, la famille proche, on a quand même accueilli, alors sur des temps très courts. Et après, elles ont pris leur appart, et puis voilà, on aidait à payer les apparts. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé ça bien, en fait. Moi, j'ai pas bien vécu le fait de vivre chez de la famille, déjà. C'est hyper contraignant pour eux, enfin pour les gens qui m'accueillaient, de vivre avec quelqu'un qui est pas leur enfant, de devoir subvenir aux besoins, de devoir s'en occuper, donner à manger. Enfin, c'est une grosse charge, en fait.
Bah, c'est un enfant en plus, quoi.
Ouais, c'est un enfant en plus, tu vois. Et puis ensuite, j'aime bien mon confort de vie, donc flemme, en fait, d'accueillir quelqu'un. Et je dis chapeau, hein, merci à ceux qui m'ont accueilli, du coup. Mais moi, j'arrête, ma génération, ça s'arrête là, tu vois.
C'était dur de dire non?
Bah, en fait, quand on m'a demandé, enfin, ils savaient déjà que j'allais dire non. Ils connaissent ma position, je vis un peu beaucoup à la française. Et enfin, voilà, c'était pas vraiment, c'était une question pour dire oui, on a demandé à Fatima si elle veut bien. Et puis,
ils sont plus acquittés de la charge de demander.
Exactement.
Ils savaient que t'allais dire non, quoi.
Ils savaient que j'allais dire non, ouais. Et ça leur a pas posé de problème.
Et pour l'instant, il n'y a pas la menace qu'une famille plus proche te demande ce service,
non,
que tu as l'air de pas du tout avoir envie de rendre.
Ah, pas du tout, pas du tout. En fait, moi, je suis prête, tu vois, à aider à payer un appart à quelqu'un, un jeune étudiant, pour qu'il ait son indépendance, etc., de ma famille, mais j'accueille pas quelqu'un chez moi.
Tu préfères filer du fric que de la promiscuité ou du temps?
Exactement. Ça, c'est beaucoup plus prenant, à mon sens, d'avoir quelqu'un chez soi.
Est-ce que l'argent, ça sert pas à ça, finalement? À se débarrasser de...
Complètement.
À pas faire d'efforts, peut-être? Je sais pas.
C'est... Non, ça achète la tranquillité. Et c'est dans ce sens-là que je regrette pas tout l'argent que j'ai donné, notamment pour les études, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, ma sœur, elle est juriste, elle est très bien dans sa vie. Je sais qu'elle me demandera jamais un euro, à moins que vraiment il y ait une grosse galère, mais ça, c'est tout le monde, quoi. Et donc, je pense que ça sera pareil pour mon frère. Et à trois, on s'occupera de la fin de vie de nos parents. On a la chance de bien s'entendre, on est très proches. Je suis le guide. Le guide, le phare, je sais pas.
Bah, t'es la première, en tout cas, à tracer la voie.
Exactement.
Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Frédéric Fortuny sur une musique d'Emma Pixon. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter partout en France. Merci à vous et surtout n'hésitez pas à nous faire des retours, des critiques, à nous envoyer des messages ou à laisser des commentaires sur les réseaux. On répond toujours. À bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire Thune, vous savez qu'on a besoin de thunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez Thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.